Rue des Majots, le rendez-vous de la Maison du Théâtre. Un programme non essentiel, une émission contagieuse.
Scène 1. Une petite fille, Chalipa, 8 ans. Des voix télévisuelles et radiophoniques résonnent et s'entrelacent. Elle écoute. On peut se demander si le Premier ministre a vraiment conscience de la violence des intempéries telles que l'archipel a dû être complètement reboisé. En dehors des 7 morts à déplorer dans l'affaire de l'hôtel de Bamako, la polémique est inutile. Et je ne comprends pas pourquoi nous nous acharnons sur Donald Trump qui rencontrera la grippe aviaire. Lors de la révolution pour la science où non, je ne crois pas qu'il faille parler de compromis électoral lors de cette compétition internationale extraordinaire où le prix de l'essence a encore augmenté tandis que les bombardements continuent sur les taureaux. Attendez-vous à ce que la journée soit maussade. Malgré les 500 soutiens nécessaires pour légitimer sa candidature à la prochaine décennie, il ne restera bientôt plus que 97 500 girafes en Afrique, a estimé le chef des brigades en charge du conflit. Entre les rebelles et l'armée syrienne, où le ton se durcit malgré la fermeté, des manifestants espagnols qui s'insurgent contre la corruption des enfants noyés sous nos yeux sans que nos gouvernements daignent accorder aux employés de chez Peugeot, la dernière place du classement général qui reviendra alors à l'imprévisible ouragan Colosse dont les dégâts actuels sont estimés à une alerte attentat de niveau rouge. En direct à la tour Eiffel, le feu a brûlé mortellement au moins. Chalipa hurle. Scène 2. Chalipa hurle toujours au beau milieu d'un jardin. Il y a une balançoire, il fait beau, c'est l'été. Entre Sam, 13 ans. Sam. Hé, pourquoi tu hurles comme ça ? Chalipa. Je cherche de la compagnie. Va jouer avec ton frère. Je le trouve pas, mon frère. Et puis d'ailleurs, mon frère, je m'en carre. Je veux de la compagnie qui est pas de la famille, capiche ? Tu es précoce, chaloupe, pour la crise d'ado. Chalipa. Je suis pas chaloupe. Pourquoi tu joues pas avec moi, toi ? Mon père, il t'a dit de nous garder, non ? Conclusion, occupe-toi de moi, maintenant. Et fais-moi des nouilles, illico. Jeter un œil. Il a dit, tu jettes un œil, Samantha. Je suis pas payée à l'heure. J'assure pas le service après-vente Dinette, Pikachu, Barbie. Je jette juste un œil sur toi, ok ? Je suis en vacances, moi. J'ai besoin de repos, moi. Tout ce qui compte, c'est que ni toi ni ton frère n'ayez l'idée tordue de mettre les doigts dans la prise en sniffant de la colle superglue. C'est sérieux ton problème là-haut dans ta tête. J'ai mieux à faire. Quoi ? T'as pas l'âge de comprendre. Chalipa hurle à nouveau. Je veux de la compagnie ! Une trappe est légèrement ouverte dans le gazon. Sam se prend les pieds dedans. Ah ! Qui a mis ça là ? Touche pas ! C'est le bunker. Le bunker quoi ? Baby veut pas qu'on y aille. C'est seulement en cas de survie. Vous avez un abri anti-atomique dans le jardin ? C'est juste au cas où, a dit Baby. Pour la catastrophe, tout ça, tout ça. Si jamais ça pète dans le monde, nous, on n'a plus qu'à se caler dans l'abri et on fait la grasse mat tranquille, loin des bombes, sans réveil, ni école, ni rien. J'ai failli me tordre un pied. C'est dangereux. Sam appuie sur la porte de la trappe de tout son poids. On entend un gros clic. C'est fermé. Ton père a appelé sur Skype ? Non. Il est où, ton frère ? Tu te laves les oreilles, des fois ? Il doit être dans sa chambre. Bon. Bon, quoi ? Allons le réveiller. Il y a du soleil, tu joueras avec lui. Moi, j'ai rendez-vous dans 10 minutes à l'arrêt de bus. Et non, tu n'es pas invité, chaloupe. Et je t'interdis de me suivre dans la rue. Scène 3. Intérieur d'une chambre. Les murs sont recouverts de coupures de journaux, d'affiches de WWF. Un ordinateur est allumé et diffuse une chaîne d'informations en continu style BFM TV. Derrière la porte, invisible, Chalipa et Sam frappent. Essan ! Essan ! C'est Samantha, tu nous ouvres ? Il fait beau dehors. Viens jouer avec ta sœur. Viens ! Sam a juré qu'elle nous préparerait des nouilles au beurre pour le petit-déj. Qu'est-ce que tu racontes ? Essan ! La porte est fermée. Va chercher la clé. On entend des bruits de pas qui cavalent et qui reviennent. Clé dans la serrure, Chalipa et Sam rentrent dans la chambre des San.
Oh, oh, ça sent le fauve ici. Il faut aérer.
Et San, tu es où, fratello?
C'est quoi ce bazar? Ah, oh, mais c'est moisi cette assiette.
Il adore la télé, mon frère, surtout les flash infos.
Je la connais, cette photo. Je l'ai vue sur Internet. Je peux pas regarder ça.
Et San, tu es sous le lit? Viens jouer, mon frère. Je m'ennuie de vivre la vie sans toi, fratello mio amore.
Tu vois bien qu'il n'est pas là. C'est quoi, ça? Samantha lit une lettre déposée sur le lit des San. Qu'est-ce que... Quoi? Mais... Quoi? Scène 4. Chalipa lit la lettre des San. J'en ai marre. Marre de tout. J'en ai marre de vivre dans un monde désespérant. Quand je me lève le matin, toutes les infos me disent « Retourne te coucher. Rien de bon aujourd'hui. Rien de meilleur n'arrive jamais. Je préfère pas vivre dans un monde pareil. Je veux pas la guerre. Je veux pas la banquise qui fond. Je veux pas travailler 24 heures sur 24. Je veux pas avoir un président dingue qui mange que du caviar ou champagne sur son yacht toute la journée. Je m'en vais. Je fais une pause. Chalipa ne touche pas à mes affaires. Dis à Babi que je regrette. C'est comme ça. J'aurais préféré que la vie ressemble plus à un rêve ou à un clip sur MTV, mais tout est trop du toc ou trop des tripes. Je veux pas vivre là. Je sais pas quoi faire. C'est comme d'être déjà mort avant même que toutes les bombes de tous les attentats ne nous pètent au visage dans le métro. Il y en a qui disent que c'est faux, les infos. Que c'est un complot du ministère pour nous faire avoir la trouille. J'en sais rien. Mais j'y crois pas à ce monde de demain. Alors ciao. Et bonne chance à vous, car moi je ne pense pas que la chance nous sauvera de grand-chose dans cette vie d'aujourd'hui où l'espoir a carrément la migraine. Et moi je suis pas médecin. Je m'en vais. Il le faut. Il n'y a plus une minute à perdre ici. Ciao. Et San.
Et maintenant, une petite pause musicale.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Bienvenue dans l'émission Rue des Majots. Aujourd'hui, nous recevons Gwendoline Soublin, autrice associée à la Maison du Théâtre. Bonjour Gwendoline.
Bonjour Hélène.
Gwendoline, tu t'es d'abord formée au cinéma en tant que scénariste, puis à la dramaturgie à l'ENSAT à Lyon. Tu écris pour le théâtre depuis 2014 et tu as reçu de nombreux prix, notamment je pense à Pig Boy 1986-2358, qui a été lauréat des Journées des auteurs de Lyon, qui a été lauréat de la Mousson d'été, également lauréat de Piste d'envol au théâtre du Rond-Point en 2018, et encore quelques autres prix, plus récemment, même en 2020. Tu as écrit également, un peu plus avant, Vert Territoire Bleu, qui avait été lauréat de Jeunes Textes en Liberté en 2017. Et dans tes activités, tu fais également de nombreuses résidences d'écriture, notamment à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Il y a une résidence d'écriture au théâtre d'Amstramgram à Genève, où tu as écrit pour écrire ce texte, tout ça, dont tu viens de nous lire un extrait. Et plus récemment, tu as travaillé avec Joan Hibert. On te connaît aussi sur l'écriture d'une de ses chansons du spectacle Un et sur la coécriture de Épopée avec Catherine Verlaguet, Arnaud Catherine et Thomas Gornet. Tes pièces sont régulièrement mises en scène. Il y a eu Coca Life Martin 33 centilitres à la Maison du Théâtre d'Amiens, que nous avons accueilli il y a 2 ans. Il y a eu On dit que Josepha au TNP de Villeurbanne, Pig Boy 1986-2358 par Philippe Mangenot au Théâtre du Parc d'Andrézieux-Boutéon. Et tout ça, mis en scène par Justine Henneman, que nous accueillerons la saison prochaine à la Maison du Théâtre d'Amiens. Alors tout ça, l'histoire se passe sur fond d'actualité radiophonique, on peut supposer. Et comme on vient de l'entendre en début d'émission, c'est l'été. Essan, 12 ans, a disparu. Et il a laissé sur son lit un message, une lettre, qui dit ses difficultés, son encombrement face à un monde... en guerre, un monde écologiquement en destruction. On pense aux banquises qui fondent, un monde où le terrorisme se fait rage. Et ses amis vont donc mener l'enquête, sa sœur, ses amis, pour le retrouver. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les thèmes que tu as voulu aborder à travers ce texte pour la jeunesse ?
Alors... souvent, quand les gens me parlent de ce texte, ils ont tendance à, je leur en veux pas, hein, mais à le mettre sous le projecteur de l'écologie. Sauf que ce qui est marrant, c'est que quand j'ai décidé d'écrire ce texte, certes, peut-être qu'à un moment donné dans le texte, ça finit par parler d'écologie parce que ça parle des problèmes du monde. Donc l'écologie est une thématique, on va dire, forte, liée aux catastrophes mondiales qu'on traverse. Mais c'était pas du tout la voie d'entrée dans le texte. Moi, j'essaye le plus possible de pas avoir des voies d'entrée dans mes textes par des thématiques parce que je trouve que sinon, ça réduit ce qu'un texte peut raconter et ça peut finir par devenir un peu didactique. À vouloir trop coller à une thématique. Donc là, la voie d'entrée, ce n'était pas une thématique, c'était une question. La question, comment les enfants d'aujourd'hui, donc le texte il a été écrit en 2016, mais il pourrait être réécrit maintenant à l'aune de ce qu'on traverse actuellement, comment les enfants d'aujourd'hui perçoivent les actualités et est-ce que les actualités ont une incidence sur leur façon de s'envisager dans l'avenir ? Posant cette question... ça draine plein de thématiques. mais des thématiques que je me suis pas dit je vais faire telle thématique. Je me suis pas dit je vais traiter d'écologie ou je vais traiter de, j'en sais rien, d'avenir ou je vais traiter des enfants et du réel. On va dire que ça finit par brasser beaucoup de choses, mais qui sont liées surtout à des questions. Et ça finit par poser d'autres questions. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse.
Très bien. Oui, ça en a posé beaucoup. On pense notamment à la question des bonnes nouvelles, enfin, oui. Du journaliste de bonnes nouvelles. On pense à la question effectivement du monde à venir.
Ouais. Oui, les bonnes nouvelles, ça c'était quelque chose qui, qui m'a été transmis directement par les enfants, parce que pour écrire ce texte, donc, j'ai été en résidence au théâtre Amstramgram, dont tu parlais tout à l'heure, pendant 2 mois et demi, en 2017. Et je voyais des enfants très régulièrement, je faisais de la récolte de paroles. Et j'avais notamment un atelier avec des enfants que je voyais toutes les semaines dans un collège, qui avait 12-13 ans. Et à chaque fois que je les voyais, il y avait toujours un petit garçon qui finissait par s'énerver en foule. Là, je m'en rappelle très bien, quoi. Je m'en rappelle très bien de son visage, tout ça, de ses poings, là. Il était vraiment colère, quoi. Il me disait, mais moi, j'en ai marre. On est toujours en train de parler des mauvaises nouvelles. Mais quand est-ce qu'on nous parle des bonnes nouvelles? Moi, j'en ai marre. Je veux entendre les bonnes nouvelles. Et puis, à force qu'il me le répète, j'ai dit, écoute, t'as raison, en fait. Il faut que j'entende ce que t'es en train de me dire. Et t'as absolument raison. Il faut qu'on arrête de parler des mauvaises nouvelles. Et donc, du coup, j'ai proposé à ces élèves, comme ça, un peu au pied levé, de faire un journal des bonnes nouvelles. Donc, je ne sais plus, il y avait les vacances, donc je ne les voyais plus pendant 2 semaines. Donc, je leur ai dit, pendant 2 semaines, tous les jours, vous écrivez dans un petit cahier des bonnes nouvelles. Soit des bonnes nouvelles que vous trouvez dans les journaux, vous entendez à la radio, à la télé, je ne sais où. Soit des bonnes nouvelles qui sont liées à la vie aussi. Parce que les bonnes nouvelles, ce n'est pas que les bonnes nouvelles du monde, c'est les bonnes nouvelles pour soi, c'est les bonnes nouvelles du quotidien. Et quand je les ai retrouvés, donc ils avaient tous bien suivi ma proposition. Et c'était super, parce qu'il y avait à la fois « je suis heureux parce que le fleuve Wanganui », et ça finit dans le texte, et a été considéré comme une personne en Amérique du Sud, à « hier j'ai mangé un kebab avec mon meilleur ami et c'était trop cool ». Et je me suis dit « bon bah là ça nous raconte quelque chose qui n'est pas didactique justement à propos de ce que ça pourrait être que la vision du monde dans lequel on est, mais qui raconte des choses qui sont au plus proche de l'intimité ». De comment on réceptionne aussi dans son intimité les grandes choses du monde.
Oui, donc tu as éprouvé ton écriture à la réalité des enfants.
Oui.
On voit par cet exemple que c'est venu modifier, enfin incurver ton intention d'écriture peut-être initiale. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques régulièrement dans ton écriture? Cette confrontation à la réalité, à des publics.
Pour ta première question, est-ce que ça, oui, fait prendre au texte une forme particulière? C'est évident. Moi, je suis arrivée avec, comme je l'ai déjà dit, avec des questions. J'avais quand même déjà envie que ce soit l'histoire d'un gamin qui s'enferme. Au départ, je voulais qu'il s'enferme dans sa chambre. Et puis, comme j'étais en Suisse et qu'ils ont des bunkers partout, c'est pour ça que ça a fini dans un bunker. mais évidemment que ce qu'ils m'ont raconté, ça a eu une influence. Parce que j'ai rencontré... Moi, j'ai fait des entretiens avec 80 enfants en tout. Donc, c'était des enfants entre 4 et 14 ans. Et évidemment que ça a permis d'infuser quelque chose dans le texte. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'était de me rendre compte, parce que peut-être que j'arrivais aussi avec un fantasme de l'enfance. Et quand on écrit pour la jeunesse, il faut vite s'en débarrasser du fantasme qu'on a des enfants. On voudrait que les enfants, notamment pour ce genre de texte, qui parle quand même de qu'est-ce que c'est que le rapport au monde, on voudrait qu'ils aient envie de sauver le monde, on voudrait qu'ils soient pleins d'espoir, on voudrait que ce soit des sortes de héros et héroïnes, alors qu'eux, pas du tout, ils sont aussi dans leur quotidien. Donc c'est venu me rappeler ça, de faire ces entretiens avec eux, qu'ils étaient aussi dans leur questionnement à eux, du jour le jour, comme nous, adultes, on peut l'être, et que parfois, ils en ont pas du tout, enfin, ils s'en agacent et ils s'en fichent aussi du monde qui est autour, et qu'ils sont singuliers. On ne peut pas ramasser les enfants dans une idée qu'on s'en fait. C'est autant d'êtres qui ont des personnalités propres. Et ça, c'était très intéressant pour moi, parce que ça m'a permis de créer 4 personnages qui ont un rapport au monde, à l'avenir, différent. Et c'était plus intéressant, ça créait de la complexité. Donc pour ça, c'est sûr que la récolte a été passionnante. Et après, concernant mon protocole de travail, moi, j'ai vraiment... Ça me passionne de faire ce travail parce que justement, c'est se confronter au réel et c'est aller voir des gens, donc c'est d'aller faire des interviews, c'est aller se promener pour voir des lieux, voir, je sais pas, des œuvres. C'est énormément se documenter. Enfin, moi, je pense que je fais un travail très documenté. C'est pas documentaire, mes textes, mais c'est très documenté. Donc, je lis aussi énormément, je regarde des films. Je fais tout ce qui est possible de faire, en fait, sans hiérarchiser. Oui, c'est un mode de fonctionnement que j'ai usuellement pour n'importe lequel de mes textes.
Un réel et un documentaire qui te mènent aussi vers la science-fiction. Bon, je pense à Pig Boy, mais oui. C'est vrai que tu as une originalité d'écriture, enfin une forme d'écriture aussi, même dans la mise en page, je pense, de tes textes, qui nous emmène au-delà.
Bah oui, parce que je me dis, bon, si c'est pour écrire des textes qui re-racontent ce qu'on sait déjà, ou ce qu'on pourrait voir dans un, bah, typiquement dans un documentaire à la télé ou dans une enquête journalistique très bien faite, moi je vois pas ce que je peux apporter de plus au Schmilblick. Oui, je peux apporter de l'intime, je peux apporter du sensible, je peux parler à l'endroit de l'humain, on va dire. Mais moi j'ai envie de parler à l'endroit du vivant déjà, ce qui est un peu différent, c'est-à-dire de faire exister pas seulement les humains, mais possiblement des végétaux, des animaux, j'en sais rien quoi, mais d'adopter d'autres points de vue. Et puis aussi... C'est vrai que cette porte d'entrée comme ça vers l'anticipation ou la science-fiction, en fait, c'est d'ouvrir la porte à l'imaginaire. C'est d'ouvrir la porte à qu'est-ce qui peut fleurir à partir de ce présent qu'on côtoie tous. Qu'est-ce que ce présent me fait comment il me chatouille, ce réel, et comment ça peut me permettre de faire grandir comme ça un imaginaire qui peut peut-être nous permettre de, je sais pas, de se retourner sur nous-mêmes au présent. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et bon, j'ai un imaginaire assez fertile. Donc ça m'intéresse aussi parce que ça permet de bricoler des textes qui sont pas juste des textes pour eux au réel et qui s'en contentent. Ça crée des ouvertures.
Ça crée des ouvertures. Et alors, je crois que tu es en train d'en créer une nouvelle actuellement. Hein, tu es donc associée à la Maison du Théâtre pour l'écriture de ton prochain texte, qui, tu disais, se retourner aussi sur le présent et sur le passé, là, pour le coup. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ton travail en cours ?
Ah, donc, actuellement, je travaille sur un texte qui s'appelle « Provisoirement, os sans main ».
En trois mots, os, voilà, sang, os,
voilà,
et main.
Sang et main. L'idée de départ de ce texte, c'est le désir de travailler sur la préhistoire. Puis finalement, maintenant, ça s'est élargi puisque c'est plus vraiment la préhistoire, mais c'est l'évolution des espèces, l'évolution du vivant qui m'intéresse. Donc voilà, je reparcours comme ça 4 milliards d'années, donc ce qui est complètement une mission impossible. Je me suis lancée dans un truc que je ne vais jamais réussir à faire. Mais parce que voilà, je crois que ça répond profondément aussi à une inquiétude et une angoisse que je peux avoir aujourd'hui, de ne pas savoir comment le monde va évoluer. En ce moment, on vit quand même quelque chose de très singulier avec cette épidémie. On est presque dans une forme d'apocalypse. Alors, on pensait pas que l'apocalypse, ça ressemblerait à ça, mais en tout cas, il y a quelque chose d'un peu destructeur dans nos imaginaires, dans nos façons de nous représenter dans l'avenir. Et je crois que de se retourner en arrière pour voir comment tout ça a pu partir d'une toute petite cellule, hein, pour retracer tout le parcours du vivant, ça peut-être être riche d'enseignements pour voir comment, bah déjà, on est certes dominant, on est une espèce dominante avec plein de guillemets, mais on fait partie d'un processus qui est plus large, et de retrouver cette place dans ce grand large, je pense que ça nous fait, en tout cas moi ça me fait du bien à ma pensée de me sentir inclus dans quelque chose de plus grand et de réfléchir à comment les choses ont pu évoluer avant moi. Et que au paléolithique, les hommes et les femmes du paléolithique étaient des gens passionnants et incroyables et qui ont posé les bases de ce qu'on est devenu et qui feraient bon et il serait temps de se rappeler à leur talent, à leur sensibilité et qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre d'eux. Donc voilà, je travaille là-dessus.
Et on attend avec impatience les premières lectures de ce texte la saison prochaine,
oui.
Et de voir où ça nous emmène dans le futur et dans notre lien au vivant.
Oui.
Effectivement, tu parlais de cette épidémie, c'est aussi le lien au vivant qu'un virus.
Oui.
Et lien au vivant, tu le fais et tu vas le faire dans ta seconde lecture avec Baptiste Morisot, philosophe. Pisteur des loups, notamment dans le Vercors.
Tout à fait.
Baptiste Morisot, qui a écrit un ouvrage pour la jeunesse également, dont tu vas nous lire un extrait, Pister les créatures fabuleuses, chez Bayard.
Oui.
Et alors, dans quelle mesure ce texte t'inspire-t-il ? Pourquoi nous le partager aujourd'hui ?
Je le partage parce que je trouve que c'est... il a écrit...
pas mal de textes maintenant, Baptiste Morisot, là, depuis quelques années. Celui-là, je vais le lire parce que c'est directement en lien avec... Voilà, j'ai lu un texte jeunesse, et là, c'est un texte qui s'adresse à la jeunesse, mais d'habitude, voilà, il écrit plutôt pour les adultes. Et la particularité de Baptiste Morisot, c'est que c'est un philosophe, mais c'est un philosophe presque qui est dans l'expérientiel, c'est-à-dire qu'il ne parle pas juste théoriquement. C'est quelqu'un qui va pister les loups, qui s'intéresse aux vivants autour de lui, donc il en cherche les traces. Et il nourrit comme ça toute une réflexion philosophique autour de la diplomatie qu'il faudrait avoir entre vivants et la cohabitation qu'il va falloir créer, qu'on la veuille ou non, avec les autres vivants, pour pouvoir réussir à faire un monde où on se respecte peut-être mieux les uns les autres et où on est attentif et plus connaisseur aussi des vivants qui nous entourent. Et donc dans ce texte-là, sur la piste... Piste des créatures fabuleuses, pardon, c'est un texte donc, qu'il adresse aux enfants et où il parle de son expérience de pistage. Et voilà, il explique ce en quoi c'est important de porter de l'attention aux vivants qui nous entourent parce qu'ils sont fabuleux à leur façon et qu'on a oublié à quel point ils pouvaient être fabuleux.
On en écoute tout de suite un extrait.
Deuxième texte. On s'est trompé sur ce qui est fabuleux. On l'a mis dans le ciel, dans les contes, dans les imaginaires, toutes choses qui sont ailleurs, alors que le fabuleux est parmi nous à chaque instant. On l'a mis hors du monde pour pouvoir utiliser le monde quotidien comme un réservoir de ressources bon marché, à portée de main, qui n'appelle pas d'égard. Mais c'est une injustice faite au monde vivant, une injustice d'adulte, et il faut imaginer une alliance entre vous, les enfants et les animaux, les plantes, les rivières, pour affirmer haut et fort le prodige du monde vivant qui nous entoure. On s'est mis à croire que seules les choses surnaturelles sont prodigieuses, alors que vous savez bien que ce n'est pas vrai. Regardez un instant les dinosaures, les hippocampes, les séquoias géants et vos mains. Un dragon qui crache du feu, cela semble parfaitement fabuleux. Mais la moindre abeille du jardin fait à chaque instant des choses plus incroyables. Elle sait danser des cartes. C'est-à-dire que lorsqu'elle rentre à la ruche après avoir exploré la prairie, elle sait indiquer aux autres abeilles à quels endroits précis sont les fleurs dont le nectar est le plus sucré. Mais sans parole, simplement en dansant. En faisant des figures complexes dans l'air, elle dessine une carte avec ses petites ailes. Une carte qui permet aux autres abeilles d'aller à leur tour retrouver toute seule la bonne fleur. Qui d'entre vous saurait danser une carte, sans rien dire, pour indiquer à quelqu'un où trouver un trésor? Les dauphins, quant à eux, savent entendre la forme des cailloux, le relief des montagnes sous-marines. Ils chantent, et les parois autour, le flanc des poissons, la surface des bateaux, renvoient le son à leur oreille. Ils savent entendre la réponse du paysage quand il lui parle. Qui, parmi nous, en est capable? Les poulpes savent raisonner et sentir avec tous leurs membres en même temps. Ils ont un cerveau qui va jusqu'au bout de chaque tentacule. Qui d'entre nous saurait penser avec son petit orteil? Chaque arbre porte au bout de chaque rameau un bourgeon leader qui tire la branche et la fait pousser. Mais ce que sera la forme de l'arbre est décidé par l'assemblée des bourgeons leaders, car ils déterminent ensemble, par des messages chimiques, comment le feuillage va pousser, quels bourgeons vont dormir ou se réveiller et le visage que l'arbre tout entier prendra en grandissant. Imaginez qu'à chaque extrémité de vos poils, il y ait un bourgeon qui détermine la forme que prendra votre corps en communiquant avec les autres. Quel prodige c'est d'être un arbre ? Il y a de bonnes raisons de lutter pour les arbres, de les défendre. En racontant cela, je ne vous parle pas de ce qu'on voit parfois dans les livres, les histoires qui parlent des prouesses physiques des animaux, comme la vitesse du guépard, la force de la fourmi, la vision nocturne du tigre. Il y a une grande différence entre le fait de raconter la capacité des abeilles à danser des cartes et celui de raconter que les panthères peuvent bondir jusqu'à 25 mètres de distance. C'est que, dans les cas des panthères, on parle de super-pouvoirs animaux. Il s'agit de performances souvent physiques, souvent un peu bêtement athlétiques, mais qui sont parfaitement imaginables pour nous. Ce sont simplement des histoires dans lesquelles les animaux sont de meilleurs sportifs que nous, les humains. Ça intéresse souvent les petits garçons, mais ce qui est plus intéressant, c'est quand on raconte que les abeilles dansent des cartes ou que les baleines entendent la forme des paysages. Là, on raconte autre chose. On raconte des formes de vie complètement inimaginables. Et il s'agit de faire justice, non pas à une performance sportive supérieure, mais à une manière de vivre inouïe et fabuleuse. Comme celle des créatures fantastiques, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Cela nous donne l'occasion de restituer aux formes de vie les plus quotidiennes, les plus naturelles, la dimension fabuleuse qu'elles possèdent en propre. Dès lors, qu'on n'utilise pas le savoir comme une force de désenchantement. Laissez-moi faire un petit aparté destiné aux parents. On peut se demander, nous, adultes, pourquoi les enfants sont immunisés contre ce désenchantement. Pourquoi n'est-ce pas si difficile de leur rappeler que les animaux sont des créatures fantastiques? Parce qu'en fait, on ne leur a pas encore enseigné l'idée de nature, la nature au sens moderne.
Nous venons d'entendre un extrait de « Pister les créatures fabuleuses » de Baptiste Morisot, édité chez Bayard, texte lu et choisi par notre invitée, Gwendoline Soublin. Merci Gwendoline.
Merci Hélène.
Rendez-vous dans 15 jours pour notre émission Rue des Majots. D'ici là, bonne lecture.